Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été en ce lundi 25 juillet. Ici Chantal Lavoie, une autre semaine qui commence. Une première semaine de vacances pour plusieurs, pour d'autres c'est le retour au travail. Cela ne nous empêche pas d'apprécier l'été, on se plonge dans toutes sortes d'activités. On change bien souvent notre routine, on cuisine, on mange des fruits et légumes de saison. On découvre de nouvelles façons d'apprêter tout ça à la manière autochtone. On vit au rythme des festivals, musique et cinéma, rien ne nous arrête. Pour cette prochaine heure, arrêt sur image, c'est la pause Aime l'été. Et aujourd'hui à l'émission de l'autocueillette à la ferme Bédard Blouin, mais plus que ça encore. Et oui, on en parle avec Raymond de Blouin qui a pris, en fait, c'est une entreprise, vous savez, familiale. On va s'intéresser aussi au cinéma de genre avec Pierre Corbeil, directeur du Festival Fantasia qui se déroule jusqu'au 3 août prochain à Montréal. Je vous invite à ne pas manquer notre chronique environnement. On poursuit notre série aussi sur l'eau. Mais d'abord, il sera question de cuisine autochtone et du livre de recettes Pachamama, Cuisine des Premières Nations. Voici le menu de votre émission Aime l'été.
On est arrivé sur la terre,
on est des champignons.
On se développe, on prolifère,
on est des champignons.
On s'installe le long des rivières,
on est des champignons.
On pousse à l'orée des clairières,
on est des champignons.
On aime se prélasser par terre,
on est des champignons.
Dès les éclaircies printanières,
des champignons.
Jusqu'au tout début de l'hiver,
on est des champignons.
Sous des chapeaux plus ou moins clairs,
on est des champignons.
Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons. Champignons, champignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons.
Voilà, c'était Aude Laff qui chantait une de ses compositions intitulée Champignons, cette pièce qui fait partie de son EP L'Aventure Continue, sorti en 2011. De son vrai nom Olivier de la Fosse, Aude Laff est un compositeur, enfin auteur, compositeur, interprète humoristique, né en 1975 à Paris. Il a déjà été chroniqueur à la télé pour l'émission de Michel Drucker. Son dernier album, je crois, est paru en 2018. Il donne ces jours-ci un spectacle au Festival d'Avignon, spectacle d'humour et de chansons, qui a pour titre Traqueur de nazis. Eh bien, Aime l'été, à Aime l'été, bien sûr, on s'intéresse à plein de sujets et notamment à la cuisine. Et nous allons parler de cuisine autochtone. Et je suppose qu'il y a quelques champignons dans la cuisine autochtone. On va en parler avec Manuel Carquois-Curtness, un chef cuisinier qui s'est donné pour mission de promouvoir les riches traditions culinaires des Premières Nations du Canada. Bonjour!
Oui, bonjour.
Bon, ben oui, Kwe, effectivement. Alors, j'ai bien prononcé votre nom, Manuel Kakwa.
Oui.
Kakwa Kurtness.
Oui.
Voilà, c'est
Kakwa
ça.
Kakwa qui veut dire la famille des porcs épics.
Ah, tiens donc.
Donc, c'est un porc épique. Et puis, ben, peut-être parce qu'on avait les cheveux un petit peu raides, si on peut dire.
Ah, d'accord, d'accord. Ben, il y a toujours des sens intéressants
ouais.
à vos noms. Et puis, bon, voilà. Eh ben, vous êtes chef cuisinier. Enfin, vous avez étudié la cuisine dans la région de Québec.
Oui.
Mais vous venez quand même, vous êtes un artiste aussi en même temps, un artiste multidisciplinaire à la base.
Oui, ben oui, c'est ça. C'est une des multiples, mettons, expériences familiales qui nous a permis là, de faire... Ben, à la base même, les Autochtones, en général, étaient quand même aussi des artistes.
C'est vrai.
Ils reproduisaient nécessairement tous les gestes. Donc, à chaque année, ils refaisaient des rames, refaisaient des canaux, refaisaient des raquettes s'ils étaient brisés. Donc, nécessairement, avait toujours une production constante. Donc, tout était basé sur le cycle des saisons. Puis, inévitablement, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'au niveau familial, nous, on a été quand même éduqués quand on était plus jeunes. Donc, nécessairement, ben, ça fait partie de ça. Et puis, oui, et si je dirais, moi, c'est par la peinture, entre autres, que j'ai exprimé justement certains éléments là, de la culture culinaire là, des Premières Nations. Donc, c'est dans ce sens-là.
Ah, ben très intéressant. Bon, de toute façon, la cuisine, c'est créatif aussi. Alors,
oui.
Vous êtes originaire d'une communauté Innu du lac Saint-Jean.
Oui.
En fait, vous êtes originaire de Mashteuyatch, c'est bien
oui,
ça?
Oui, Mashteuyatch, oui, qui veut dire la pointe. Donc... À la pointe. En réalité, ça se nommait Pointe Bleue anciennement. Donc, la raison était simple, là, c'est que quand on arrivait par les affluents du lac, dans le fond, qui était beaucoup plus un réservoir à l'époque, ça n'a jamais été vraiment un lac, mais c'est devenu un lac au moment où il y a eu des ouvrages réalisés par les papetières à l'époque. Puis maintenant, c'est Rio Tinto là, qui gère les au niveau des barrages. Donc, ça a créé un bassin. Donc,
ce
bassin d'eau-là est devenu un lac. Et puis, à ce moment-là, on l'a nommé comme ça. Mais nécessairement, c'est quand les gens arrivaient et le soleil de l'après-midi brillait, on voyait la pointe beaucoup plus avancée vers le lac, si on peut dire. Donc, les gens en canot se dirigeaient vers cet endroit-là. On savait que c'était un endroit où il y avait du sapin. Donc, c'était des endroits où on allait s'installer souvent pendant la période estivale, si on peut dire, durant l'été. Donc, c'est un endroit où ce que ça a été fréquenté beaucoup. Et puis, juste pour dire, Mashteuyatch, c'est un endroit où on aurait trouvé là il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, il y a eu des fouilles archéologiques. Puis on mentionnait qu'il y avait une présence là d'au-delà 6 000 ans là, déjà sur cet endroit de cette communauté-là. Ouais.
Bon, merveilleux. Alors, on voyage à travers vous. C'est merveilleux. Alors, vous nous invitez d'ailleurs à prendre part à un voyage ethno-gourmand au cœur des Premières Nations avec ce premier livre de cuisine, Pachamama, en cuisine des Premières Nations, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça date de quand même 2010. L'idée, c'était la série télé qui était diffusée sur APTN. Donc, 2009, le tournage, 2010, la publication, 2011, la saison 2, si on peut dire. Donc, c'est une série télé qui a été diffusée là sur le réseau APTN. Puis, le livre en tant que tel a été vendu en totalité. Il y a eu 8 000 copies. Il y en a encore qui sont disponibles là, sur en mode virtuel, si on peut dire. On peut acheter le livre là,
c'est ça.
Oui.
Ben vous savez, si on en parle, parce que votre éditeur, en fait, nous a dit qu'il était en réimpression.
Oui, c'est ça. Là, je sais que le projet là, tenait là, peut-être en main à quelque part. Là, donc, c'est dans ce sens-là qu'on souhaitait faire justement une nouvelle publication. Là, donc, c'est dans ce sens-là.
Tout à fait pertinent, de toute façon. Alors, c'est un livre qui nous transporte à la rencontre donc des peuples autochtones, qui traite d'échanges, de reconnaissance, de culture, de tradition, et vraiment à travers ce prisme bien particulier, celui de l'alimentation et des habitudes culinaires. Bon, ça faisait longtemps que vous y pensiez. Bon, vous aviez déjà une émission à la télé. Le livre, ça allait de soi par la suite.
Oui et non. Ça a été là, on a validé, voir si c'était de l'intérêt. Là, donc, c'est dans ce sens-là qu'il s'est réalisé un livre. Mais vous savez, ce livre-là, c'est pas à 100% la cuisine autochtone, c'est une cuisine moderne. Là.
C'est ça, il y a eu bien des influences de toute façon, c'est comme dans n'importe quelle cuisine, au fond, il n'existe pas de cuisine autochtone typique, semble-t-il.
Il y en a qui appartiennent aux individus, donc c'est pas une cuisine Vous savez, l'air moderne là, a fait en sorte que, quand je parle de l'air moderne, beaucoup plus l'air culinaire, où c'était les cuisiniers qui cuisinaient pour les gens. Là, donc, chez les Autochtones, c'était pas ça, c'était les familles qui cuisinaient.
Mm-hmm.
Donc, les individus, donc à partir d'un gibier animal, ben on mangeait dans l'ensemble, mais on utilisait l'ensemble de l'animal aussi. Parce qu'à l'époque, mettons, de la méthode européenne, là, parce qu'il y a à peine 400 ans, là, on rencontrait les premiers Européens sur le territoire ici. Donc, nécessairement, les gens vivaient déjà depuis 8000 ans. Donc, on peut convenir qu'il y avait une cuisine qui existait. Et puis, ouais. Ben, il y avait des familles qui ont vécu, donc qui ont grandi. Puis, quand les premiers Européens sont arrivés, ben, nécessairement, on n'a pas découvert, nous, qu'on était capable de faire de la cuisine. On le savait déjà. On avait déjà des techniques, des méthodes.
Mais il y a eu des influences. Donc, les Européens ont été influencés par vous et vice-versa.
Oui. Oui, il y a eu des influences. Nécessairement, les influences ont fait en sorte qu'on s'est ramassé dans des communautés autochtones, dans des réserves, qu'on appelle. Donc là, on nous a interdit de manger notre garde-manger. Puis on nous a dit, ben maintenant, c'est ça que vous allez manger. Farine, sucre, du bœuf, du porc, du poulet. Donc des choses qu'on connaissait pas vraiment. Mais qui, nous, nécessairement, ben, on a quand même écouté une certaine façon de faire. Puis, ben, on a mélangé nos techniques qu'on connaissait déjà d'avance à partir de ces techniques européennes-là, mm-hmm. qui ont fait en sorte que c'est, oui, effectivement, il y a une musique, il y a une cuisine beaucoup plus mixée, si on peut dire.
C'est
mais
ça,
celles
parce que...
dites traditionnelles vont tenir celles à partir du premier poisson que tu vas pêcher dans la saison, puis que la chasse que tu fais, donc, c'est des récoltes à même direct. Donc, le garde-manger était beaucoup plus proche qu'on peut l'avoir aujourd'hui là, à partir des communautés autochtones
c'est
où
ça.
Souvent il faut se déplacer.
Exact. Alors parce qu'on part finalement de ce qui est disponible autour de nous, alors que ce soit au niveau de la pêche, au niveau de la chasse. Bon, d'ailleurs, vous, vous avez quand même mis du temps à chasser, à devenir chasseur. Vous avez pas ça a pris du temps avant que vous chassiez votre premier orignal,
ben oui,
entre autres.
J'ai assisté quand même souvent, mais je veux dire à la rencontre moi-même, ça a quand même pris un certain nombre d'années. Écoutez, bon ou pas bon, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est souvent les rencontres entre les animaux qui a fait en sorte que... Mais je pense que ça a pris quand même 16, 17 ans, 18 ans là, d'avoir quand même, là, que ce soit moi qui abatte le premier animal dans mon cas. Là.
C'est ça.
Et j'ai assisté souvent à des chasses là, qui faisaient en sorte que, nécessairement, ben écoute, j'étais présent dans le tour, mais c'est pas moi qui ai tiré.
C'est ça. Ben, enfin, de toute façon, comme vous dites, on provoque rien. L'essentiel, c'est de respecter ce que la nature nous donne aussi. Et puis voilà. Puis, vous, en fait, dans votre livre, il est question de plusieurs communautés. On parle de vous en avez, à peu près 11, je pense, au moins?
Ben il y a 11 nations.
C'est ça. Mais, de toute façon.
Il y a 53 communautés autochtones à travers l'ensemble du Québec, avec les Inuits aussi en même temps qu'on ajoute. Donc, les peuples autochtones, celles du Québec, et, ben, en tout cas le nord du Québec, mais aussi tout l'ouest canadien.
Mm-hmm.
Si on regarde
en fait pas mal, là,
de l'Amérique du Nord, il y a quand même bon nombre, mais si on regarde au niveau canadien, il y a au-delà de 658 communautés autochtones, je pense, qui sont répertoriées. Maintenant, celle-ci, en termes de nations, là, il y en a à peu près 65-68. Donc, ça devient quand même un certain nombre. Il y a autant de recettes de castors que de nombre de trappeurs ou de chasseurs familiales.
Ah, c'est très bon.
Bon, mauvais. c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Puis, mais les techniques appartiennent à eux. Hein. Ça fait que nécessairement, il y en a qui vont... C'est comme vous, si vous préférez mettre plus de sel ou encore moins de sel ou encore du poivre ou des épices, ben ça va en fonction des gens. Moi, je regarde mon père, pour lui, chasser l'orignal, quelqu'un là, qui abat un animal, ben dans le fond, on va préférer des pièces nobles. Tu sais, ils vont chercher le filet mignon. Parce que mon père, lui, c'est le museau. Le museau de l'orignal, c'est juste ça qu'il veut manger au départ. Par la suite, les morceaux de viande, bon, ben, c'est facultatif pour lui. Quoi qu'il en a beaucoup mangé, ben, nécessairement, c'est dans ce sens-là, là, un peu que chacune des personnes ont leur prise, on les endroits primés, là, en tout cas.
C'est ça, chacun. Effectivement, cuisine en fonction de ses goûts, bien sûr.
Mm-hmm.
Chaque chapitre comprend aussi un cours historique hein, d'une communauté, un aperçu de ses habitudes alimentaires, et puis à peu près quoi, 3 recettes qui revisitent là, les traditions culinaires.
Oui, en moyenne.
D'accord.
Oui, en moyenne, à peu près 3 recettes. Puis d'autant plus, une des choses qui est intéressante aussi en même temps, c'est des choses que vous pouvez facilement substituer. C'est sûr et certain qu'il faut quand même avoir une certaine base là, en termes de gibier à plume, gibier à poil, gibier... les lagopèdes, les perdrix, les lièvres, les poissons, il peut avoir les mollusques crustacés. C'est quand même assez diversifié.
C'est très vaste, c'est
plus,
assez...
En fonction de la disponibilité. D'autant
aussi.
Plus, les communautés autochtones, c'est surtout le principe de dire qu'il fallait être opportuniste à l'époque, parce qu'on n'avait peut-être pas les techniques modernes d'aujourd'hui, mais on avait quand même les endroits, les connaissances où il y avait soit des zones où les c'était dans les frayères, dans les moments les plus faibles des animaux, c'est-à-dire dans le fond la période de la chasse, de la pêche, se faisait surtout là dans les endroits précis là. En termes de territoire, on savait où on allait.
D'accord. Alors donc, un voyage culinaire, donc le livre Pachamama, qui signifie en quechua la terre-mère des hommes, des bêtes et des plantes. Hein?
Mm-hmm.
C'est aussi, l'une des grandes divinités, dans les Andes, entre autres. Et oui, alors,
oui, c'est en vain, là, en termes de nom. De toute façon, à l'époque, là, c'était Orlando Arriagada, là, entre autres, là, qui est toujours là, le producteur de l'émission de télé, bien sûr, mais qui est aussi en même temps Pimiento, qui est la boîte là, de production qui, eux, avait à cette époque-là comme idée de faire la route du maïs à l'envers, donc nécessairement à partir d'ici, mais retourner vers les Andes, donc tout en nous rappelant que, bien sûr, ça avait un même sens.
D'accord.
Pachamama, c'est la terre-mère, donc c'est une autre manière. Ouais.
Parfait. Alors, un aperçu, vitement, là, regardez. Pigeon en croûte, pain de maïs, esturgeon braisé, pain de viande d'orignal, tartare de chevreuil, petit gibier en sauce, tarte à la perdrix. Enfin, j'ai nommé quelques recettes comme ça ici et là. Alors, ça vous donne une petite idée. Donc, très bien adapté aussi. C'est sûr, c'est à la fois la culture autochtone, mais quand même adapté à aujourd'hui aussi.
Oui, effectivement.
Important. Effectivement. Oui. Ben, merci infiniment d'être venu nous en parler. Et puis, bonne suite. J'espère qu'il y aura une suite à ce livre.
Ah, tout est possible. On travaille là-dessus.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci, Hélène.
Merci, Emmanuel Kakua-Kurtness.
You change from winter to the spring while I am sleeping. Beneath these apple trees of sorrow grown for me. In opposite days, but you wouldn't care. I see those carvings in the tree we share.
I know that it is all
of the moments that I spend with you.
I
suddenly feel that none of them were true.
I know the leaves are falling
for you, fading for me. Those bright lights just ain't lights of love left to be. And now I'm like, hey, what's going on?
Down by the fire, warming up my bones, cause it's freezing and the only thing I want is to melt. I wish I had the wherewithal to do so, but I'm so alone. Don't you know that it ain't so nice to be fooling around and picking my heart up to throw it away.
In opposite days, but you would.
Talk
I see those carvings
heart.
In the tree we share.
I know that it is
all of the moments that I spend with you.
I
suddenly feel that none of them were true.
I know the leaves are falling
for you, fading for me. Those bright lights just ain't lights of love left to be. And now I'm like, hey, what's going on? Days as the days go by, and nothing seems clear as I clearly try,
to
figure out why I fell in love so hard. It must be these apples
heart.
That I ate at the start.
In the end,
I'm calling for you, oh please answer to me. Those bright lights are still lights that I'd like to see. And now I'm like, hey, what's going on?
The Seasons, ce groupe originaire de la ville de Québec composé de Hubert Chiasson, qui est connu maintenant sous le nom de Hubert Lenoir, et de son frère Julian, tous deux à la guitare et au chant, avec Samuel Renaud à la basse et Rémi Bélanger à la batterie. Les quatre Québécois qui se sont fait connaître avec l'album Pulp, réalisé en 2014, et notamment avec cette chanson Apples. Hubert Lenoir et son groupe qui a offert, qui ont offert, semble-t-il, un des meilleurs spectacles du Festival d'été de Québec tout récemment. Voilà, alors, c'était notre lien avec, la ferme Bédard-Blouin. On y fait de l'autocueillette. On devait parler à une de ses fondatrices, Raymonde Blouin. On parle, vous savez, de plus en plus de jardinage responsable, de jardinage naturel ou encore de jardinage écologique. Alors, toutes ces expressions qui font référence au fait de jardiner dans le respect de la nature et de sa biodiversité. Alors, bien sûr, on allait en parler avec Madame Blouin, bien entendu. Alors, on tente de la joindre. Alors, bien désolé, évidemment, ce sont des gens que l'on joint généralement par téléphone. Hein. C'est une ferme de Beauport. Et puis, sachez quand même qu'en allant, je pense, sur le site, vous aurez plus de détails. Je sais qu'ils font aussi beaucoup d'informations, donnent de l'information, s'impliquent au niveau communautaire. On a installé également une garderie. Ça, c'est intéressant. Il y a effectivement une CPE, les pouces verts, qui sont sur le terrain, je pense même, de la ferme. Alors, c'est une belle expérience en soi. Et puis, j'imagine, tout ce contact avec la nature pour les enfants, ça doit être sensationnel. Comme je vous disais, on y fait l'autocueillette, notamment des fraises, la saison des framboises aussi qui a commencé tout récemment. Et puis, pendant l'automne, on fait l'autocueillette de courges et de citrouilles. Et puis, alors, on fait aussi la vente de fleurs. Alors, c'est un beau projet. Donc, effectivement, on en était quand même à plusieurs générations. On parle au départ d'une première génération avec Charles Bédard qui s'est établi sur le site actuel de la ferme Bédard et Blouin. Donc, à cette époque, il produit plusieurs variétés de légumes qu'il vend au marché public de Québec ainsi qu'à certains épiciers. Ensuite, c'est son fils, Denis Bédard, voilà. Et puis ensuite, il va y avoir son épouse, Raymonde Blouin, justement, à qui on devait parler, qui va prendre officiellement la relève de l'entreprise familiale en 1990. Et puis sa fille, Sarah Bédard aussi, qui va produire toutes sortes de... qui va s'impliquer au niveau aussi de la ferme. Alors, voilà. Est-ce qu'on a par hasard, madame? Non, pas tout à fait. Alors, on y reviendra de toute façon. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire concernant... Ah oui, il y a un beau partenariat aussi avec Nature Québec afin d'encourager le verdissement des ruelles du côté de Limoilou à Québec. Oui, c'est ça, ils sont impliqués là-dedans. Alors, il y a plein de choses à dire sur ces gens-là qui ont vraiment une grande implication sociale. Voilà. Alors, on en reparlera certainement. Et puis, vous savez que plus tard, on va parler aussi du festival de films Fantasia. On aura notre chroniqueur également, notre chroniqueur environnement qui va venir nous parler, on va poursuivre notre série sur l'eau. Alors, c'est à ne pas manquer. On parlera principalement du fleuve Saint-Laurent cette année. Vous savez que il y a le député Alexandre Boulris qui est allé à l'ONU, pas tout seul, mais quand même, il est allé faire des représentations pour justement donner un statut juridique au fleuve. Ça, c'est très intéressant parce que, c'est vrai, on donne des droits aux humains, on donne des droits, on veut donner des droits aux animaux, tout ça, mais également, la nature a des droits, aurait avantage à avoir des droits. Comme ça, on pourrait mieux peut-être protéger la nature et justement, on veut donner ce statut juridique au fleuve Saint-Laurent, comme on le fait aussi pour d'autres lieux comme ça à travers le monde. Alors, de plus en plus, ça devient quand même populaire et connu de faire les choses ainsi. En tout cas, c'est à suivre. Alors, on va surveiller ça. Alors, je vous laisse un petit peu en musique et puis on vous revient un peu plus tard.
Sur Saint-Denis, un peu passé 2h30. Dans son pyjama délavé, elle avait l'air un peu foquée. Je pouvais pas dire ce qui m'attirait, sûrement ses yeux, tout ce que je voyais. Le grand amour, comme dans les films. Je me demande si c'est une légende, c'est-tu normal?
savais pas comment l'aborder. J'ai dit, salut, moi, c'est Freddy. Mais j'avais pas vu ses écouteurs, fait que j'ai eu l'air un peu loser. J'ai pris mon courage à deux mains, pis comme s'il y avait pas de lendemain, j'ai fait semblant d'y rentrer dedans. J'vous le cacherai pas, c'était malaisant. Belle histoire s'est terminée. Le jour où je l'ai rencontré, c'était le premier puis le dernier. Le grand amour, comme dans les films. Je me demande si c'est une légende, c'est-tu normal que je la fréhende. J'ai jamais su à quoi.
Ben voilà, c'était une musique, bon, c'est ça qui me permet en fait encore de vous parler un tout petit peu. Hein. On devait parler avec Raymond de Blouin de la ferme Bédard-Blouin. Alors, ce sera partie remise, effectivement. Alors, je vous invite à aller quand même sur le site, puisqu'on parle quand même de jardinage responsable, de jardinage naturel ou de jardinage écologique, voilà. Alors, évidemment, c'est toute une expérience. Choisir les bons végétaux, effectivement, fertiliser organiquement, tolérer les maladies et les insectes, hein, et nos fameux dont on a parlé durant l'émission au cours des dernières semaines. Alors voilà, jardiner avec amour. Vous savez, cette semaine, à la fin de la semaine, il sera question d'un festival haïtien. Oui, ce sera vendredi qu'on en parlera. Et un festival qui va se tenir au Parc La Fontaine en fin de semaine prochaine. C'est l'artiste Corneille qui va recevoir d'autres artistes d'origine haïtienne. Alors voilà. Il y a le Musée des Beaux-Arts. Je voulais vous en reparler. Vous savez, sur le site du Musée des Beaux-Arts, il y a toute une programmation forte, intéressante, virtuelle. Alors, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, j'en reparlerai. C'est très, très intéressant. Alors, ça, c'est à suivre. Je vous retrouve pour la deuxième demi-heure de l'émission. Restez là.
Vous écoutez Aime l'été.
And ash. She's desert trash, and she's perfectly okay with that. She knew in her mind that one day she'd have to come back. on adrenaline, put on a show. Drinking up gasoline, chasing down deserted roads. High on the drama that comes with the mileage you go. Life is a movie directed by people you know.
C'était la chanson Desert Trash. C'était Mia. Mia, qui est une DJ américaine et productrice originaire de Phoenix, en Arizona, qui a attiré l'attention en 2014 après avoir travaillé avec Skrillex, ce DJ américain de musique électronique bien connu. Elle a sorti l'album Desert Trash en 2020. Voilà. Alors, Festival Fantasia 2022, plein feu. Et oui, sur ce festival qui est en cours présentement, qui se termine le 3 août. Alors, on a encore du temps. Le Festival international de films Fantasia qui effectue un retour en force en salle pour célébrer sa 26e édition avec une dynamique programmation de projections, de panels, d'ateliers et d'événements. On en parle avec quand même quelqu'un qui connaît bien son sujet, oui. Et puis là, ben, vous êtes devant moi, puis j'ai tellement de feuilles devant moi que je n'arrive pas à mettre le nom sur... Ben, c'est Pierre Corbeil, oui. Voyons. C'est fou. Depuis tantôt qu'on se parle. Et puis, alors, directeur du festival de films de genre Fantasia. Eh bien oui, parlons-en de ce film, de ce festival, de ce cinéma de genre, finalement. Mmh. Alors, on peut peut-être juste en reparler. Évidemment, on parle d'horreur, de drame, de suspense, de toutes sortes de choses.
Mmh. Oui, en fait, le cinéma de genre, c'est un cinéma qui est axé sur l'imaginaire, donc les genres qui, on peut dire, sont pas ancrés dans la réalité. Donc oui, science-fiction, horreur, suspense, thriller, mais on a quand même une grande variété. Mm-hmm. On dépasse le film de genre parfois. S'il y a un film qu'on croit même qui est un film plus ancré dans la réalité, mais qui peut intéresser notre public, qui est généralement des gens dans la vingtaine, trentaine, on est tout à fait ouvert, là, que ce soit au niveau du long-métrage, du court-métrage, mais c'est quand même en très grande majorité des films plutôt fantastique, on va dire. Donc, film de genre, c'est un peu une expression qui est utilisée surtout au niveau des anglophones ou les Américains. C'est un terme très utilisé depuis longtemps, mais ici, au Québec, ça fait peut-être, je dirais, une dizaine d'années que ça... À cause, entre autres,
À cause du festival, bien oui. Sûr. Alors, vous nous avez éveillés à cette réalité-là de ces cinémas, de ce cinéma de genre. Et aussi, c'est dans la façon... C'est pas juste... on parle de cinéma de genre, mais c'est dans le traitement également. Le traitement, c'est un élément important aussi au niveau du film, la manière de présenter ça aux spectateurs. En fait, mm-hmm. c'est tout un monde à la fois. Alors, ça peut être autant drôle, ça peut être autant... ça peut faire peur. On part dans tous les sens. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec une animatrice ici et puis on parlait d'Harold Desmaudes. Alors, mm-hmm. elle était un peu surprise sur le coup, là, tu sais, cinéma de genre. Mais oui, en quelque sorte, parce que le personnage, au fond, s'intéresse beaucoup à la mort, est obsédé par la mort dans ce film-là. Alors, donc, ça fait partie aussi du cinéma de genre. Donc, voilà. Et puis, justement, on pourrait en parler longuement, mais de tous ces codes, bien sûr. Et puis, on sait qu'il n'y a pas de règles, alors ça peut aller dans tous les sens. Mais donc, plus... on va peut-être entrer davantage dans la programmation parce que c'est à la fois... il y a les films, il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages, il y a des événements. Il va y avoir aussi des hommages rendus à certains réalisateurs. Alors, commençons par un petit peu un survol de la programmation.
Oui. Ben, nous, on est premièrement cette année de retour, donc à un, on peut dire, une ampleur de programmation là, qui était, qu'on a évidemment changé en 2020-2021, mais on parle d'à peu près 135 longs-métrages. On a 25 programmes de courts-métrages. Donc, dans chaque programme, il y a 10-12 courts-métrages. Donc, on est autour là, du 300 courts-métrages. Il y a effectivement des hommages qu'on a rendus, entre autres, à John Woo, qui est un grand réalisateur hongkongais, qui a déjà été, entre autres, président du jury du Festival de Venise. Donc, c'est quelqu'un qui est très reconnu à l'international. Beaucoup de réalisateurs comme Quentin Tarantino le citent comme une influence majeure pour eux. Il a fait plusieurs films hollywoodiens, dont Face Off, qu'on a présenté, qui est un film culte avec John Travolta et Nicolas Cage. C'est une histoire vraiment assez extraordinaire où les deux personnages s'échangent leur visage, se font greffer essentiellement le visage l'un de l'autre. Donc, ils jouent les personnages l'un et de l'autre. C'est intéressant.
Oui. Alors donc, c'est vraiment, lui, un réalisateur absolument fabuleux. Donc, vous allez, cette année, lui rendre hommage. Donc, il y a aussi, il y a aussi un volet, si on veut, un marché parallèle. C'est-à-dire qu'évidemment, ça attire plein de gens aussi. C'est un lieu d'échange, de partage en même temps, ce festival-là. Donc, alors, 26e édition. Alors, bon, alors justement, outre cet hommage que vous allez rendre à ce grand réalisateur, c'est ça d'ailleurs, bon, il sera là.
En fait, il était là au début du festival.
Ah, d'accord, parce
la
que là, le festival est en cours. Bien sûr, c'est vrai, cet hommage-là lui a déjà été
oui,
rendu.
On est à moitié chemin aujourd'hui.
Effectivement. Alors donc, volet court-métrage, volet long-métrage. Alors, les plus... ce qui s'en vient là peut-être prochainement, là, je sais qu'il y en a quand même passablement qui ont été présentés.
Oui. Je dirais, par exemple, demain, on présente le film français de Patrice Lecomte, « Maigret ». Qui met en vedette Gérard Depardieu et Patrice Lecomte va être à Montréal pour présenter son film. Donc ça va être vraiment, je pense, un événement assez spécial. Il y a vers la fin du festival, le 2 août, on présente le nouveau film de Denis Côté, Un été comme ça.
Qui va être à l'affiche, oui, c'est ça, sur les écrans partout au Québec, mais donc les gens qui ne pourront pas assister au festival comme tel. Mais c'est vrai, c'est intéressant, comme c'est un sujet très particulier.
Oui, ça démontre, je pense, un peu la variété qu'on présente au festival. Pour nous, un film comme ça, c'est vraiment un film d'auteur, donc mais quand même qu'un sujet pour nous, c'est clair que notre public va être intéressé à ce sujet-là en particulier. Ouais. C'est des gens qui suivent aussi Denis Côté régulièrement. Donc, c'est un film qui était présenté en première mondiale au Festival de Berlin au mois de février. Donc, le timing est bon pour nous au niveau de la sortie du film. Donc, on peut le présenter avec M. Côté qui va être présent et les actrices aussi qui étaient dans le film. Donc,
et comme on dit, le cinéma quand même québécois qui a son volet, qui s'intéresse à ce genre de cinéma. Et puis, on pense au film de zombies qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. C'est vraiment, on a quand même toute une production ici qui est assez riche à ce niveau-là.
Je pense que ça reflète l'engouement pour le cinéma de genre ou les séries de télé de genre qui sont vraiment prédominantes depuis de nombreuses années, de plus en plus. Donc, le Québec est aussi, on voit que le public québécois, avec le succès du festival, sont très...
Le public est au rendez-vous.
Oui, l'engouement est là depuis les tout débuts. Nous, on a commencé en 96, c'est notre 26e édition. Puis ça, chaque année, l'engouement s'est maintenu ces dernières années avec la pandémie. On réussit quand même à maintenir l'intérêt, puis les gens sont là, sont au rendez-vous.
C'est ça, l'intérêt des cinéphiles. Et, oui, d'ailleurs, ces gens-là qui, évidemment, connaissent bien le festival aussi depuis de longues années, qui connaissent bien aussi les codes du cinéma de genre, souvent, ont quand même cette connaissance-là. Alors, donc, autre film aussi à voir?
Je dirais, dans notre soirée clôture, on a un film qui s'appelle « Next Soi ». C'est un film sud-coréen, c'est un drame, mais qui a été présenté au Festival de Cannes. Vraiment un film de très haute qualité qui a été dont on a parlé dans la presse. il y a quelques jours comme un des films à voir. Ça, c'est vraiment le 3 août, donc c'est notre soirée de clôture. Puis on a aussi le film la même soirée qui s'appelle Bodies, 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 qui est une comédie d'horreur qui met en vedette Pete Davidson, qui est un jeune comédien qu'on peut voir à Saturday Night Live et qui est vraiment une vedette montante. Mais je pense que ça va vraiment être un film typiquement fantasien dans le sens que le public va être nombreux et va réagir beaucoup. Là. Donc, on est très reconnu comme un festival qui a un public qui est très réactif. Les gens, on a beaucoup, beaucoup d'invités de partout dans le monde qui viennent et qui sont... Pour eux, chaque fois, ils repartent en disant « ça, c'est vraiment la plus belle projection que j'ai jamais eue de ma vie. » Là, donc,
Alors, quand même.
Oui.
Ouais, c'est merveilleux. Et, ben, en fait, et puis, c'est sûr qu'il y a tout un public aussi pour le court-métrage. Et ben, au Québec, d'ailleurs, on en produit quand même beaucoup. Hein. C'est étonnant. C'est très... Il y a vraiment une croissance énorme là, au niveau des courts-métrages. Là, bon, je comprends qu'un long-métrage, ça coûte cher, mais aussi, c'est une façon pour les jeunes créateurs de produire du cinéma qui est moins cher puisque, bon, ça dure moins longtemps. Mais il reste que c'est aussi en soi un projet qui est intéressant aussi. Au niveau de la cinématographie, les courts-métrages sont quand même fort intéressants.
Oui, ben c'est par là qu'on commence pour la plupart des cinéastes. Ouais. Puis,
il y a beaucoup de création qui se fait à ce niveau-là.
Oui, parce que c'est aussi le développement des technologies au fil des années. Maintenant, on peut tourner même avec un téléphone, avec une qualité d'image qui ressemble à du 35 mm qu'auparavant, les gens, un court-métrage de qualité présentable dans un festival, ça pouvait coûter 200 000 $ parce que ça devait être tourné en pellicule et on devait avoir des subventions. Ça passait presque par le même processus que produire un long-métrage, mais maintenant, tout ça, tout peut se faire... vraiment de façon, on peut dire, artisanale ou en tout cas avec des moyens qui coûtent à peu près rien. Donc, on produit, on voit vraiment des très, très beaux films techniquement, mais aussi ça encourage donc les gens qui ont le talent de faire quelque chose qui a une facture très professionnelle. Donc, nous, on en présente une centaine de courts-métrages québécois à chaque année.
Quand même, hein?
On parle de courts-métrages assez axés, évidemment, sur le genre. Donc, il y a beaucoup de films qui se font, beaucoup de courts-métrages de gens qui sont présentés à Fantasia ou dans d'autres festivals québécois aussi.
C'est ça. Il y a plein de lieux de diffusion maintenant pour les courts-métrages, y compris nos télés traditionnelles maintenant. Avec toutes les plateformes, effectivement, on peut se permettre d'en présenter pas mal. Ça, c'est intéressant,
oui. Oui, absolument.
Qu'est-ce que vous avez remarqué, bon, à travers toutes ces années au niveau de ce cinéma-là? Ça s'est développé énormément, j'imagine, au niveau international aussi. C'est très riche.
Ben, par exemple, quand nous, on a commencé en 96, les gens avaient très peu de... Pour eux, c'était inaccessible pratiquement le cinéma de genre international, donc de d'autres pays à part les États-Unis, l'Europe un peu. Maintenant, les gens peuvent avoir accès à tout ce qui se fait et il se fait entre autres des très belles séries qu'on peut voir, par exemple, sur les plateformes comme Netflix.
C'est ça.
L'année passée, il y a une série qui s'appelait Squid Games de Corée du Sud, qui a été un succès planétaire. Ouais. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc, si je peux faire rapidement ce qui existait en 96 versus 2022, c'est vraiment une accessibilité... Qui est très grande, mais l'intérêt aussi a grandi, la quantité de films qui sont disponibles. Donc, même s'il y a un accès, les gens voient beaucoup de choses à la télé, mais ils continuent à avoir un intérêt encore plus grand pour venir dans les festivals.
Donc, c'est de plus en plus difficile de faire votre choix, j'imagine, hein?
Oui, absolument. Puis c'est sûr que cette année, on a eu beaucoup de films qui sont devenus disponibles, qui attendaient de sortir à cause qu'ils retardaient leur sortie à cause de la pandémie. Mais là, maintenant, c'est quand même généralement, ça repart un peu partout dans le monde. Donc oui, on a eu vraiment l'embarras du choix, comme on dit.
Alors voilà, et puis on suit, enfin, sur votre site, on va avoir tous les événements qui vont avoir lieu d'ici le 3 août prochain, bien sûr. Alors, Pierre Corbeil, directeur du Festival de films Fantasia, merci beaucoup, et puis vraiment une belle édition cette année.
Merci.
Alors, on en profite tous, bien sûr, et puis on a bien hâte à la suite même, à l'an prochain.
Merci.
Au revoir. Voilà, très belle chanson des jeunes artistes de Green Team, ces jeunes qui se mobilisent pour la cause écologique en interprétant des chansons inédites en collaboration avec la fondation Good Planet. La chanson avait pour titre « Trois petits pas ». Alors, c'était bien, bien joli. Aujourd'hui, dans notre chronique environnement, on va recevoir Jean Paquin, avec qui on va continuer notre série sur l'eau. On avait commencé à parler de l'eau, enfin, de différentes façons, là, avec Mathieu Laneuville, président-directeur général du réseau environnement. Cette fois, on va discuter. On va parler plus spécifiquement, je pense, du fleuve Saint-Laurent. Alors, bonjour, Jean Paquin.
Bonjour, Madame Lavoie, ça va
bon,
bien?
Mais oui, ça va bien. Alors, c'est ça, donc, une première rencontre pour nous, mais ce sera drôlement intéressant de parler du fleuve, parce que vraiment, le fleuve, hein, c'est au cœur de l'écologie québécoise.
Absolument, on était dans le parc marin du Saint-Laurent ce matin, au large de Saint-Simon, le premier traversier qui va arriver à Rivière-du-Loup, alors, en plein dans l'habitat des Maritimes.
C'est ça, il y a comme on entend votre téléphone en même temps qui essaie de composer je pense qu'on l'a perdu, voilà. On a compris qu'il était quand même justement au bord du fleuve Saint-Laurent, il n'est pas à côté de nous en effet. Alors on va avec lui faire une espèce de un aperçu géographique du fleuve Saint-Laurent. On va parler de l'importance historique et stratégique aussi du fleuve comme voie navigable et des activités portuaires, nautiques, des ressources naturelles et puis bien sûr savoir, qu'en est-il du rôle du fleuve dans l'écosystème et comment se porte notre fleuve? Très important. Alors, on va en parler avec Jean Paquin, qui, lui, en fait, je vais juste vous dire qu'il est ingénieur chimiste. Ce sera fait, les présentations. Alors, ingénieur chimiste et biochimiste, gradué de l'Université Western Ontario à London depuis 1977. Il a travaillé 7 ans dans l'industrie comme ingénieur en procédés et en protection de l'environnement avant d'œuvrer à la création d'une entreprise en 1984. Alors, vraiment, c'est ça. L'expérience de M. Paquin englobe le développement et l'application de technologies utilisées dans le domaine de la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement et plus particulièrement pour la réhabilitation aussi des sites contaminés, le traitement d'eau et de sol et puis l'élimination de substances toxiques. Alors, vraiment, il a quand même une grande expertise. Et puis, il travaille aussi comme bénévole au sein de différents organismes, dont le réseau Environnement, voilà. Alors, très important. Et puis, ben, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Effectivement, ce qu'on veut accorder au fleuve Saint-Laurent un statut juridique, et ben oui, c'est le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, qui est allé défendre cette idée d'un statut juridique pour le fleuve aux Nations unies. C'était en avril dernier. Alors, je pense qu'on l'a rattrapé, M. Paquin. Bon, ben voilà, bonjour. Rebonjour.
Rebonjour. Désolé du contretemps.
Alors là, vous êtes où exactement?
Je suis à Saint-Jean-de-Dieu, dans la région des Basques.
Ah, d'accord. Donc, effectivement, le son est pas mal mieux, donc ça valait la peine de vous rattraper, enfin, de se rattraper, là, pour... puis le son est nettement plus agréable. Alors, je vous ai présenté, de toute façon, alors on n'aura pas besoin de parler de ce que vous avez fait dans la vie jusqu'à présent, et puis j'ai parlé aussi du fait que M. Boulris, le chef adjoint du NPD, est allé défendre l'idée d'un statut juridique pour le fleuve aux Nations unies en avril dernier. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On veut protéger les humains, on veut protéger les animaux, on veut leur donner un statut juridique et tout, mais la nature, elle, a aussi ses droits. Alors, c'est ça, puis on voulait le faire pour le fleuve Saint-Laurent, notamment.
Eh bien.
Alors, très bien. Alors, parlez-nous, là, vous allez... on va d'abord parler du fleuve, mais on va faire un aperçu géographique dans un premier temps.
Oui, alors long de 1200 kilomètres du lac Ontario à l'océan Atlantique, c'est un cours d'eau majeur à l'échelle globale, un peu comme le Nil, l'Amazon, le Mississippi. Mais le Saint-Laurent, c'est unique en raison du grand estuaire où se mêlent les eaux douces et eaux salées. La plupart des autres fleuves, c'est de l'eau douce qui se rejette dans un océan, mais il y a une grande zone de transition ici au Québec. Puis on parle d'une distance jusqu'au bout des Grands Lacs de 3100 kilomètres. Alors, on peut vous imaginer en auto à 100 kilomètres à l'heure, 31 heures d'auto, voir la longueur de cette voie navigable-là. C'est énorme.
Effectivement. Et puis, donc, évidemment, le fleuve, donc c'est tout cet apport d'eau là qui arrive des Grands Lacs. Donc, effectivement, si on parle de... on a parlé souvent de contaminants. Enfin, tu sais, c'est toute une chaîne, là. Donc, forcément, tôt ou tard, s'il y a des contaminants au niveau des Grands Lacs, ben ça s'en vient chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'industries aussi là-bas.
Oui, absolument. C'est pour ça que ça prend une coordination avec les autres juridictions pour améliorer la qualité de l'environnement, pas seulement au Québec, mais aussi en Ontario puis dans les États riverains des Grands Lacs aux États-Unis.
Mm-hmm, c'est ça. Et puis, bon, une voie navigable aussi importante, ça, tu sais, on l'a souligné, bien sûr. Hein, ça, c'est vraiment... Et puis, la configuration actuelle date de très, très longtemps.
Oui, c'est ça. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a 14 000 ans, les grandes dépressions dans le continent étaient remplies avec l'eau de fonte des glaciers. C'est devenu les grands lacs qui s'écoulaient vers la mer de Champlain. Et puis éventuellement, quand le poids des glaciers qui était fondu a relâché de la pression, bien, le continent est remonté, la mer de Champlain s'est drainée. Et puis il y a 11 000 ans, le fleuve Saint-Laurent a pris sa configuration actuelle.
Bon, alors voilà. Et puis après ça, bon, il y a toutes ces activités portuaires, nautiques aujourd'hui. Il y a quand même, on parle quand même de tout ça, une valeur économique en même temps, liée au commerce maritime.
Oui, mais on peut peut-être noter que les descendants des Européens sont ici depuis 400 ans, mais il y a des Autochtones depuis 8000 ans pour qui le fleuve Saint-Laurent, c'est extrêmement important comme voie de navigation. Maintenant, depuis 1954, on a la voie maritime du Saint-Laurent qui part de Montréal pour aller jusqu'au bout des Grands Lacs. Alors, c'est des enjeux économiques très importants. On parle de 6 000 navires par année, de 52 millions de tonnes métriques de marchandises par année. On parle de 4 000 emplois. C'est énorme au point de vue d'activité économique, puis nécessaire aussi pour toutes nos fournitures dont on a besoin.
Ben oui, notre garde-manger, hein, c'est en même temps, c'est important.
Oui, ben le fleuve a toujours été un garde-manger des humains. Alors, il y a moins de pêche qui se fait maintenant qu'auparavant, parce que malheureusement, il y a des pêches qui se sont effondrées, comme la morue, et qu'on espère rétablir avec des meilleures actions pour améliorer la qualité du milieu.
Mm-hmm. Alors, évidemment, bon, on peut parler du rôle du fleuve dans l'écosystème, mais j'aimerais aussi qu'on ait le temps, parce qu'on achève, là, monsieur, il nous reste une minute, malheureusement. Qu'en est-il de notre fleuve aujourd'hui, là, en fait? Comment se porte le fleuve?
Ben, il est bien mieux qu'auparavant. Dans les années 80, toutes les eaux usées allaient dans le fleuve non traité. Il y avait des dépotoirs le long du fleuve. Il y a énormément de travail qui a été fait dans les années 80-90, mais il reste beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que Réseau Environnement travaille avec les gouvernements pour améliorer les systèmes d'assainissement des eaux usées, pour régler des enjeux comme l'oxygénation des eaux dans le lac Saint-Pierre, l'oxygénation des eaux profondes dans l'estuaire et le golfe, où est-ce qu'il est en train de s'établir des zones mortes. Alors, oui, il y a beaucoup de travail à faire encore.
Jean Paquin, on va continuer la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Alors, vous serez là?
Oui, absolument.
Parfait. Ben, je vous remercie infiniment. À la semaine prochaine, on va continuer notre discussion. Et à vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. On sera là demain, même heure, à midi.